L'est de la ville de Düsseldorf, en Allemagne, se trouve une belle région qui s'appelle Ojdal. Là habitait un homme qui était un grand théologien et qui était aussi un grand poète. Il était même directeur d'école. Cet homme composait des poèmes et il allait dans une vallée qui était près de chez lui, une très belle vallée qui l'inspirait pour écrire ses poèmes. Il a écrit de nombreux poèmes et des cantiques à la gloire de Dieu. Il a vécu dans les années 1600, et un jour, il est allé dans cette vallée, et il a été inspiré de composer un cantique. Ce cantique, nous venons juste de le chanter avant que le commence la prédication. Bénissons Dieu notre roi, le puissant roi de gloire. Évidemment, ce cantique, nous l'avons chanté en français, il était à l'origine en allemand. Mais dans ce cantique, cet homme célébrait la gloire du Dieu créateur, la puissance du Dieu créateur, la magnificence de ce Dieu qui a créé tout l'univers. Cet homme allait souvent dans cette vallée. Il y trouvait l'inspiration, il a écrit des poèmes, des cantiques. Et il y allait si souvent que finalement on a décidé de donner à cette vallée le nom de cet homme. On a appelé cette vallée d'après son nom, et cet homme s'appelait Joachim Neander. On a donc appelé cette vallée Neandertal, la vallée de Neander. 200 ans après sa mort, on a travaillé dans cette vallée où coulait la rivière Düssel, et on a commencé à creuser parce qu'on voulait extraire des matériaux pour fabriquer du ciment. Et en creusant, on a trouvé des cavernes. Et dans ces cavernes, on a trouvé des ossements humains. Alors, l'évolutionnisme, qui était très à la mode à ce moment-là, a sauté sur l'occasion et a vu dans ces gens, ces ossements, le lien entre nos ancêtres singes et les hommes d'aujourd'hui. C'était l'homme de Néandertal. Mais curieusement, même lorsque ces ossements ont été trouvés, l'un des évolutionnistes les plus acharnés, Thomas Huxley, en les regardant, s'est rendu compte qu'il n'était vraiment pas un lien entre les singes et nous, parce que les ossements de l'homme de Néandertal étaient exactement les mêmes que les nôtres. Cependant, l'idée a continué. Et on a fait de l'homme de Néandertal cette espèce d'ancêtre dans l'évolution de celui qui nous a précédés et qui n'était pas encore aussi développé que nous. Curieux. Curieux de voir que là même où la gloire du Dieu créateur a été chantée, louée, dans ce même endroit, le diable a trouvé le moyen, au même endroit, de se moquer de Dieu. Et il le fait encore. Pourtant, le texte est clair. Et vous le connaissez comme moi. La Bible nous dit, « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. » Quand on y pense, c'est extraordinaire. L'homme créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. D'ailleurs, nous avons du plaisir, en lisant les Écritures, à voir tout ce que Dieu fait comme nous. Dieu fait plein de choses comme nous. Et d'ailleurs, ce matin, j'aimerais en regarder quelques-unes. J'aimerais regarder avec vous quelques-unes des choses que Dieu fait comme nous. Et permettez que nous en regardions 7, si vous le voulez bien. La première chose que Dieu fait comme nous, et que j'aimerais mentionner parmi toutes celles que Dieu fait comme nous, se trouve inscrite dans le livre du prophète Sophonie, au chapitre 3. Sophonie, chapitre 3. Prenez le temps de trouver ce verset, il est un peu difficile, au fond de votre Ancien Testament, parmi les petits prophètes. Sophonie, chapitre 3. Au verset 17, il est écrit ceci. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. On s'est bien dit, mais l'expression « transport d'allégresse » traduit un mot qui veut dire finalement « chanter » en français courant. Le texte du rabbinat français traduit qu'il gardera le silence sur tes fautes. Mais l'Éternel chante. Dieu chante. Écoutez, si Dieu a donné aux anges cette belle voix qui fait que dans les cieux retentissent des chœurs extraordinaires le chant des anges, pensez que Dieu, lui, ne sait pas chanter. Quand Dieu chante, les anges se taisent pour écouter. Dieu chante. Et quand est-ce que Dieu chante? Dieu chante à cause de vous et à cause de moi. Dieu chante parce que nous avons accepté d'être sauvés par lui. Et le contexte d'ailleurs est très explicite. Regardez encore dans Sophonie chapitre 3, au verset 12 par exemple, il est dit « Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. » Et un peu plus loin, au verset 14, « Poussez des cris de joie, fille de Sion, poussez des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. » L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Extraordinaire. Réjouis-toi. Et il s'adresse là à un peuple petit et humble. Le reste, nous dit le texte, qui trouve son refuge dans l'Éternel. Dieu chante en pensant au reste à la fin des temps. Et est-ce que nous ne voulons pas nous faire partie de ce reste qui garde les commandements de Dieu et qui a la foi de Jésus? Dieu chante. Dieu chante à la fin des temps à cause de vous et à cause de moi, à cause du fait que nous avons été délivrés par sa grâce et que nous l'avons accepté. Dieu chante quand ceux qu'il aime sont sauvés. Et puis il y a une autre chose que Dieu fait. Regardez ce passage avec moi dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 14. Jérémie chapitre 14, un texte qui est rapporté ici par le prophète et qui transmet au peuple ce que Dieu lui dit. Jérémie chapitre 14, au verset 14 commence ce que Dieu lui demande de dire. Et il est écrit « Et l'Éternel me dit » et il commence à parler. Et un petit peu plus loin, au verset 17, il dit « Dis-leur cette parole, les larmes coulent de mes yeux nuit et jour, et elles ne s'arrêtent pas, car la Vierge, fille de mon peuple, a été frappée d'un grand coup, d'une plaie très douloureuse. » Dieu pleure, Dieu chante, mais Dieu pleure. Et il fait dire à son peuple, par l'intermédiaire du prophète, « Les larmes coulent de mes yeux nuit et jour à cause de vous. » Parce que vous êtes en train de souffrir. Et là, dans le contexte, après la première déportation, le peuple ici va subir une sécheresse catastrophique. Il n'écoute toujours pas. La sécheresse a frappé le peuple et Dieu pleure. Les larmes coulent de mes yeux, nuit et jour. Elles ne s'arrêtent pas. Avez-vous pensé à Dieu qui pleure? Dieu pleure parce que son peuple souffre. Alors quand nous souffrons, avez-vous remarqué, on dit « Seigneur, où est-ce que tu es ?» Réponse, « Je pleure pour toi. » Vous vous souvenez aussi, Jésus devant la tombe de Lazare a pleuré. Et c'est peut-être le verset que vous connaissez par cœur, c'est le plus court de la Bible, deux mots. Jésus pleura. Jean 11, verset 35. Et on comprend que Jésus n'est pas en train de pleurer parce que Lazare est mort. Il sait très bien que dans deux minutes, Lazare sera vivant. Mais il pleure parce qu'il est là entouré de gens qui ne croient même pas en lui, qui ne croiront même pas quand ils verront Lazare vivant. Et la première chose que ces gens vont faire lorsqu'ils vont voir Lazare vivant, c'est se rassembler pour savoir comment ils peuvent faire mourir et Jésus et Lazare, celui qui donne la vie et celui qui la reçoit. C'est sur ces gens-là que Jésus pleure. Jésus a pleuré sur Jérusalem, qui rejetait le salut que lui-même était venu apporter. Quand Dieu pleure, il pleure sur son peuple qui souffre, sur la souffrance de son peuple qui est causée soit par ses infidélités, soit par sa fidélité, l'un ou l'autre. Dieu chante et Dieu pleure. Regardez avec moi maintenant dans Jérémie chapitre 32, verset 41. Jérémie chapitre 32, verset 41. On va lire dès le verset 40 pour avoir l'idée en général. « Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Je les planterai véritablement dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. » Le Seigneur sait être joyeux. Et le texte nous dit ici, « Je prendrai plaisir à... » Et c'est véritablement l'expression, « Je serai heureux, je serai joyeux de faire ça pour eux. » Dieu chante, Dieu pleure, mais Dieu rit aussi. Dieu est joyeux. Vous vous souvenez de ce texte dans Néhémie au chapitre 8 et au verset 10 où il est dit, « La joie de l'Éternel sera votre force. » Dieu est joyeux, Dieu est content lorsque son peuple peut recevoir ses bénédictions et qu'il est ouvert pour les recevoir. Il veut traiter une alliance nouvelle avec ce peuple. Et ce peuple est prêt à recevoir cette alliance. Et Dieu est heureux. Il dit, je vais le faire de tout mon cœur, de toute mon âme. Dieu ne fait pas ça d'une façon désinvolte. Dieu est dedans à 100%. Et quand Dieu est heureux, vous imaginez Jésus avec les enfants, je pense qu'il a bien rigolé avec eux. C'est lui qui les faisait rire, probablement plus que les adultes. Et ce n'est pas pour rien qu'il leur disait que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Dieu est joyeux quand il peut faire du bien à son peuple, quand il peut répandre ses bénédictions sur son peuple et que son peuple est prêt à les recevoir. Il y a une quatrième chose que Dieu fait. Que Dieu fait comme nous. Regardez par exemple dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er. Évangile de Jean, chapitre 1er. Dès le premier verset, il est dit ceci. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dieu parle. Et il nous est même dit que Dieu, c'est la parole. Mais on apprend que cette parole, elle est extraordinaire parce que le psaume 33 nous dit que lorsqu'il dit la chose arrive, il ordonne et elle existe. Vous ouvrez votre Bible à la première page dans la Genèse et vous y voyez ces textes. Dieu dit, la chose arrive. 10 fois Dieu va parler dans la semaine de la création et la chose arrive. Quand Dieu parle, c'est extraordinaire. Et dans l'Ancien Testament, on a constamment ces expressions « ainsi parle l'Éternel », comme pour dire, mes amis, ouvrez grand vos oreilles, Dieu parle, écoute. Dans le Nouveau Testament, on trouve une expression qui finalement est équivalente. Jésus s'adresse aux gens de son temps et dit, en vérité, je vous le dis. Même chose, Dieu est en train de parler, quand il parle, que la terre écoute, silence, Dieu parle. Et Dieu, il est la parole. Alors je comprends pourquoi Jésus, qui est venu dans le monde, est véritablement Dieu en personne, parce qu'il est la parole incarnée. Et Jésus parle. En vérité, je vous le dis. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quand Jésus parle, quand Dieu parle, la chose arrive. Quand Dieu parle, il parle pour créer, il parle pour donner la vie, il parle et sa parole demeure éternellement. Vous imaginez Jésus devant la tombe de Lazare. Il n'a pas été enlevé les bandes, il n'a pas été roulé la pierre, il n'a pas été le secouer, il n'a pas été lui faire du bouche à bouche. Lazare sort. Et Lazare sort. Quand Dieu parle, il donne la vie, il crée. Pour vous et pour moi, Dieu parle. Il y a une cinquième chose que Dieu fait. Dans Jérémie, il est écrit « La voix de l'Éternel crie à la ville, et celui qui est sage craindra ton nom. Écoute la menace du châtiment et celui qui l'envoie. » La cinquième chose que Dieu fait, c'est pas seulement parler, c'est crier. Dieu crie. Il crie dans la ville. Et quand Dieu crie, j'allais dire c'est mauvais signe, c'est parce que quand il a parlé, nous n'avons pas écouté. Quand Dieu crie, c'est pour nous dire « arrête ». Quand Dieu crie, c'est comme un père qui est devant sa maison et qui voit son petit enfant qui court vers la route où il y a les voitures qui passent. Il n'a pas le temps de courir là-bas. Il crie « arrête ». Il ne va pas commencer à lui dire « mon cher enfant, je pense qu'il serait bon pour le moment d'interrompre ta marche parce que tu cours au danger. Arrête ! » Et quand Dieu crie, c'est qu'il a déjà parlé suffisamment et que nous n'avons toujours pas entendu. Dieu crie parce qu'il veut que chacun de ceux qu'il aime puisse entendre. D'ailleurs, je repense à l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, une expression revient souvent. Une forte voix. Et dans Apocalypse 14, il y a un ange. Un ange qui traverse le ciel. Et il est dit, il criait d'une voix forte. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ce n'est pas un chuchotement, c'est un cri qui parcourt l'univers. Il disait d'une voix forte. Dieu crie, Dieu appelle. Et quand Dieu crie, c'est peut-être que nous n'avons pas encore entendu quand il parlait. Et puis, Dieu crie, mais parfois, Dieu se tait. Regardez dans 1 Samuel, chapitre 28. 1 Samuel, chapitre 28, il y a là une histoire que vous connaissez bien, à la fin de la vie du roi Saül. 1 Samuel, chapitre 28, au verset 6, il est dit, Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'urim, ni par les prophètes. Dieu se tait, c'est l'exil de la parole, c'est le silence de Dieu. Et ce silence, il est incompréhensible parce que tout à l'heure, on a justement vu que Dieu est la parole. Et voilà maintenant que Dieu se révèle dans la non-parole, dans le silence. Dieu ne répond pas. Et vous avez remarqué, Dieu ne répond pas parce que Saül, qui prétend invoquer l'Éternel, ne veut pas l'entendre. Parce que si Dieu ne répond pas, Saül va aller demander au diable ce qu'il veut savoir. Dieu se tait. Pensez à Jésus, devant Pilate, devant Hérode. Pas un mot. Au point où il lui dit, c'est à moi que tu ne parles pas. Tu sais que j'ai autorité sur toi. Et là, Jésus parle. Tu n'as aucune autorité sur moi. Jésus se tait. Tout a été dit déjà. Vous comprenez? Pensez à Élie. Élie qui parle et voilà le feu qui tombe du ciel. Et Dieu veut faire comprendre à Élie que même s'il y a une tempête qui passe devant lui, même s'il y a un tremblement de terre qui remue tout ou un feu qui ravage tout, c'est dans le silence que Dieu va se révéler à lui. Le murmure doux et léger pourrait être traduit par un silence. La non-parole de Dieu. Parfois, Dieu ne parle pas. Parce que Dieu a tout dit. Parce que Dieu a crié. Et maintenant, il se tait. Et il souffre. Pensez à l'Apocalypse. Chapitre 8 commence par nous dire qu'il y a dans le ciel un silence d'une demi-heure. Ensuite de ça, les jugements tombent. Dieu se tait. Il a tout dit. Il n'y a plus rien à dire. Quand Dieu se tait, c'est mauvais signe. c'est peut-être que nous n'avons entendu ni sa parole, ni ses cris. Quand Dieu se tait, c'est que le jugement arrive. C'est qu'il veut peut-être encore essayer une dernière fois de se révéler à nous autrement. Il y a une septième chose que Dieu fait. Regardez avec moi dans Genèse au chapitre 2. Genèse chapitre 2. Au verset 3, il est dit ceci. Genèse chapitre 2, verset 3. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Dieu se repose. Dieu se repose quand il a achevé son œuvre et c'est le sabbat. Dieu s'arrête pour être avec ses créatures. Dieu ne s'est pas arrêté au milieu de la semaine parce qu'il était fatigué d'avoir créé. Il s'arrête quand son œuvre est finie parce que le chef-d'œuvre est présent, l'humanité. Dieu s'arrête, non pas parce qu'il est fatigué, mais Dieu s'arrête parce qu'il est comblé par la présence de ses créatures. Et il veut être avec eux. Le sabbat pour être avec Dieu. En fait, le sabbat, c'est le premier jour pour l'être humain. Adam et Ève ont vécu comme premier jour le jour du repos. Non pas encore une fois pour se reposer du repos dodo, mais pour se reposer avec Dieu. Quand Dieu s'arrête, c'est parce qu'il veut être avec nous. Quand Dieu s'arrête, c'est parce qu'il veut être avec nous. Et quand Dieu aura tout refait, tout achevé, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, Apocalypse 21, en quelques versets, il est répété, il sera avec eux, avec eux, avec eux, avec eux. Quand Dieu aura tout refait, là, il va pouvoir de nouveau s'arrêter dans le sabbat éternel, parce qu'il sera avec nous. Quand Dieu s'arrête, c'est parce qu'il veut être avec nous. Alors, je suis émerveillé de tout ce que Dieu fait comme nous. Et quand j'y pense, c'est exactement l'inverse. Parce que nous avons été créés à son image. C'est pas que Dieu fait comme nous, c'est que nous, nous devrions faire comme Dieu. Alors, à ce moment-là, je me trouve en difficulté. Heureusement que Dieu ne fait pas comme nous. Mais je me pose maintenant la question, est-ce que je fais comme lui? Quand Dieu chante, il chante parce qu'il est heureux de voir le reste sauvé qui s'attache à lui à la fin des temps. Mais quand moi je chante quoi? Qu'est-ce que je chante? Les chansons que j'entends dans les magasins, que j'entends à la radio, c'est ça que je chante? Avec quelle musique est-ce que je remplis mon cœur? Avec la musique de là-dehors, que tout le monde fredonne, et que je ramène aussi dans l'église parce que je n'en connais pas d'autre? C'est cette musique-là que je chante? Quand je chante, est-ce que les anges pourraient chanter avec moi? C'est vrai, souvent je ne chante pas comme Dieu chante. Quand Dieu pleure, c'est parce qu'il souffre de voir son peuple souffrir. Mais moi, quand je pleure, c'est pourquoi? C'est parce que je suis découragé. C'est parce que je suis en train de dire, je souffre, et qu'est-ce qui fait Dieu? Quand je pleure, c'est que je pense à moi, et que je trouve que mon malheur est le plus grand malheur du monde, et je m'apitoie sur mon sort à moi, et je m'apitoie sur moi-même. Quand je pleure, ce n'est pas souvent à cause de la souffrance des autres qui n'ont pas encore trouvé le salut et qui souffrent à cause de cela. Alors, souvent quand je pleure, je ne pleure pas comme Dieu. Quand Dieu est heureux, quand Dieu est joyeux, c'est parce qu'il est heureux de répandre ses bénédictions sur ses enfants qui sont prêts à les recevoir et qu'ils peuvent être sauvés. C'est parce que ses enfants sont heureux du salut. Mais moi, quand je suis heureux, c'est parce que j'ai reçu un beau cadeau, c'est parce que je suis fier de moi, fier de ce que j'ai fait, fier de ce que mes enfants ont fait, c'est comme si c'était moi. Quand je suis heureux, c'est parce que je suis heureux de ce que j'ai, que les autres n'ont pas, c'est parce que je suis heureux de ce que je suis, et je suis heureux parce que les autres m'aiment. Quand je suis heureux, c'est à propos de moi, mais je ne suis pas nécessairement heureux de savoir que ces gens-là sont sauvés. qu'ils reçoivent les bénédictions de Dieu. Ça me rendra plutôt triste parce que moi je ne les ai peut-être pas. Alors souvent, je ne suis pas heureux comme Dieu. Dieu parle. Mais quand Dieu parle, c'est pour créer, c'est pour éclairer, c'est pour donner la vie. Quand Dieu parle, il se donne la parole. Mais moi, quand je parle, qu'est-ce que je fais? Quand je parle de moi, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai. Et je vais vous montrer mon camion, mon ordinateur, mes choses. Quand je parle, c'est pour montrer que je suis meilleur que les autres. Quand je parle, c'est parfois pour dire des sottises. Quand je parle, c'est parfois pour dire des choses qui ne sont pas tout à fait vraies. Quand je parle, c'est pour me plaindre des autres, de mon église, de Dieu, de tout, de moi. Je ne parle pas comme Dieu. Quand Dieu crie, c'est pour m'arrêter parce que je suis sur une mauvaise voie. C'est un appel ultime. C'est un appel quand Dieu crie. Mais moi, quand je crie, c'est pour gronder sur quelqu'un qui ne m'a pas obéi. Quand je crie, c'est pour vous dire ma colère. Quand je crie, c'est pour m'imposer par mes paroles, par mon attitude. Quand je crie, c'est pour vous faire connaître ma façon de penser, n'est-ce pas? Quand je crie, ce n'est pas pour implorer les autres de s'arrêter sur leur chemin qui conduit à la perdition. Ce n'est pas pour leur adresser un appel solennel à venir au Christ. Alors quand je crie, souvent je ne crie pas comme Dieu non plus. Quand Dieu se tait, c'est parce qu'il a tout dit et qu'il veut nous inviter encore à entendre une dernière fois avant que les conséquences n'arrivent. Mais moi, quand je me tais, c'est parce que je suis fâché. Quand je me tais, c'est parce que je veux punir quelqu'un par mon silence. Quand je me tais, c'est parce que je suis tourné vers moi et que les autres, ça ne m'intéresse pas. Et quand je me tais, franchement, c'est qu'il vaut mieux que je me taise parce que vous risqueriez d'en entendre beaucoup trop, n'est-ce pas? Quand je me tais, ce n'est pas par sagesse, par amour pour ceux qui sont en face de moi. Alors souvent, mon silence n'est pas le silence de Dieu. Quand Dieu se repose, c'est pour être avec moi, avec nous. Communier, communiquer avec nous. Quand Dieu s'arrête, quand Dieu se repose, c'est pour être avec moi. Mais moi, quand je me repose, j'ouvre la télévision, je vais sur Internet, sur Facebook, je sors un jeu vidéo, je m'éclate, je fais un divertissement quelconque, je vais faire ce qui me plaît. Quand je me repose, ce n'est pas nécessairement pour être en relation avec ceux que j'aime, avec mon mari, que j'ai pas vu de la semaine, avec ma femme, qui est occupée avec la maison, avec mes enfants qui sont un peu partout. Quand je m'arrête, quand je me repose, ce n'est pas nécessairement pour être en communion avec ceux que j'aime. Alors finalement, souvent, je ne me repose pas comme Dieu non plus. Heureusement que Dieu ne fait pas comme nous. Mais nous sommes appelés à faire ce que lui fait, parce qu'en fait, nous sommes créés à son image, et pas dans l'autre sens. Mais Dieu savait très bien que nous sommes tellement souvent tentés de le fabriquer, lui, à notre image, à nous. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il a fait un commandement à ce sujet-là, parce qu'il savait bien que ce serait un piège pour chacun d'entre nous, de le fabriquer à notre image. Alors Dieu ne chante pas comme nous, ne pleure pas comme nous, ne crie pas comme nous, ne parle pas comme nous. Mais nous, nous sommes appelés à être comme lui. Madame White, au siècle passé, a écrit ce paragraphe que j'ai trouvé intéressant. Dieu ne peut se révéler tant que ceux qui prétendent être des chrétiens ne deviennent pas des hommes et des femmes qui agissent selon sa volonté dans leur vie privée. Quand ils seront un avec lui, sanctifiés dans leur corps, leur âme et leur esprit, alors ils seront des temples prêts pour que le Saint-Esprit demeure en eux. Il y a juste un petit membre de phrase qui m'a interpellé fort dans ce paragraphe. Qui agissent selon sa volonté dans leur vie privée. Pas juste en public, dans leur vie privée. Je me rends compte que je ne fais pas comme Dieu et que je suis appelé à reproduire son image pourtant. Et j'aimerais cependant terminer avec cette promesse qui se trouve dans l'Épître aux Colossiens où l'apôtre Paul dit ceci. Car vous êtes morts, mais votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Et juste après, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qu'il a créé. Le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir nous renouveler, nous transformer et de reproduire l'image de cette perfection qui est en Jésus. Pour cela, il va falloir que je meure à moi-même et que j'accepte d'être ce temple où Dieu habite par son Esprit Saint. Amen.